VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Sénégal, l'inauguration aujourd'hui du nouvel aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Un projet d'infrastructure ultramoderne dont le gouvernement souhaite faire une plaque tournante en Afrique et un moteur du développement économique du pays. Les autorités sénégalaises comptent sur cette infrastructure de premier plan pour redynamiser le secteur des transports aériens et le tourisme, comme l'affirme Mohamed Habiboulafal, directeur de la communication de l'aéroport international Blaise Diagne.
On va ouvrir avec une capacité de traitement de 3 millions qui peut passer à 3 millions 600. C'est un levier important pour le développement du tourisme. Autour de l'aéroport va se créer au moins 6 000 emplois directs et indirects. L'autre nouveauté, c'est que sur cet aéroport-là, nous pouvons accueillir les avions de dernière génération. Nous démarrons avec ce terminal-là, mais l'aéroport a été projeté dans sa phase ultime. Ça veut dire quoi? Dans sa phase ultime, cet aéroport pourra traiter jusqu'à 20 millions de passagers par an.
Mohamed Habiboulafal, directeur de communication de l'aéroport international Blaise Diagne au Sénégal. Côte d'Ivoire, un millier de militaires ivoiriens ont profité du plan de départ volontaire de l'armée qui est en pleine restructuration pour diminuer ses effectifs pléthoriques. Les détails avec Solange Namoulissa.
Le porte-parole du gouvernement Bruno Koné a affirmé qu'au 31 octobre 2017, 991 demandes sur 1067 ont obtenu un avis favorable de la commission qui examine les demandes de départ. Il s'agit de 3 officiers, de 634 sous-officiers et de 354 militaires de rang. Il a ajouté que les soldats concernés seront mis à la retraite anticipée à la fin de ces mois et recevront leur pécule des départs. Il a expliqué que la répartition de l'effectif de l'armée est en déphasage avec les normes admises pour une armée moderne. L'armée ivoirienne compte quelque 23 000 soldats, dont 6 000 sergents, pour un total de 15 000 sous-officiers. Les autorités ont promu massivement des militaires en intégrant des anciens rebelles lors de mutineries de 2014. Cette année, de nouvelles mutineries pour des primes ont ébranlé le pays, alors que de nombreux militaires ivoiriens se plaignent de leurs conditions de vie.
Crise migratoire, le gouvernement du Niger rapatrie ses ressortissants émigrés en Libye et désireux de rentrer volontairement au pays natal. Une première vague d'un peu plus de 500 personnes est arrivée mercredi à Niamey, la capitale. Reportage de notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
Il y avait sur le visage de la plupart des 504 ressortissants nigériens venus de la Libye en cette soirée du mercredi 6 décembre 2017 à l'aéroport de Niamey de la joie. Pour certains, c'est même une délivrance. La Libye leur paraissait comme un enfer.
Tout ce qu'on dit sur la Libye, c'est la vérité. Ce qu'on vous a dit qu'on a fait à Libye. On tue des hommes, on égorge, on menace. Il y a même, on vous trouve comme ça là. Il y a les gars qui vous trouvent, ils vous mettent les feux, ils passent. Non, je me sens à l'aise maintenant, mon frère. Je suis chez moi. Je vais faire comme je veux. Je ne souhaite pas encore retourner à Libye. Ah, non. Ça, c'est impossible.
Non, même si on me paye, je ne veux pas aller là-bas. Ça, je fais quoi là-bas?
Moi, je fais 3 mois en prison. Sans manger, sans boire, on tue les gens, on frappe les, on les tabasse, on est maltraité. Ça me fait plaisir de rentrer à la maison comme ça. Je suis très heureux maintenant.
Cette vague est la première d'une série, l'ambassade du Niger en Libye ayant déjà enregistré 4000 candidats au retour volontaire. Même eux ne sont que ceux qui sont dans les villes proches de Tripoli, la capitale, rassure ce jeune.
Ceux qui sont peut-être à 80 ou 100 km, ils ne peuvent pas venir à l'ambassade pour inscrire leur nom. Parce qu'il y a trop de barrières, tu ne peux même pas bouger à 100 mètres pour aller quelque part. Parce que ça ne va pas. C'est pour cela que je vais dire aux autorités ici, ils n'ont qu'à aller pour dire à l'ambassade du Niger, de faire tout pour amener rapatrier nos frères qui sont loin de Tripoli. Parce que nous, qu'on est venus ici, ce sont les gens qui sont aux alentours de l'ambassade. Ce sont eux qui sont venus. Mais ceux qui sont loin, à 100 ou bien à 200 km, ils ne peuvent même pas venir pour inscrire leur nom.
Parti les accueillir, le ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, les a rassurés de l'assistance du gouvernement dans ces moments difficiles.
Nous savons que Ces dernières semaines ont pu être difficiles pour un certain nombre d'entre vous, pour vous tous peut-être, mais cette peine que vous avez pu endurer, aujourd'hui, elle est finie et chacun d'entre vous va rentrer chez lui en espérant que vous aurez les meilleures conditions d'accueil et que vous continuerez à vous battre tout comme vous vous êtes battu pour aller en Libye à la recherche d'une vie qui n'a pas été possible pour les raisons que tout le monde sait. Je voudrais, au nom du président de la République, une fois de plus, vous souhaiter la bienvenue. Nous avons préparé toutes les conditions pour faire en sorte que votre séjour ce soir ici à Niamey soit le plus bref possible parce que nous avons mobilisé assez de bus pour que chacun d'entre nous soit acheminé directement ce soir même chez lui.
Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La lutte contre les djihadistes en Afrique, la composante police du G5 Sahel affûte ses armes. En conclave à Bamako au Mali, les patrons des services de gendarmerie et de police des pays de l'organisation qui regroupent, rappelons-le, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie, veulent un meilleur encadrement judiciaire dans la traque des djihadistes. La réunion de Bamako, qui va durer jusqu'à vendredi, doit permettre une validation des procédures avant le prochain Conseil de défense et de sécurité du G5 Sahel, qui se tiendra au mois de février prochain. Les précisions de Pierre Lapac, représentant régional de l'ONU-DC, basé à Dakar.
Pour s'assurer que les gens qui ont commis des crimes et des délits puissent être condamnés et qu'ils puissent passer un certain temps en prison. Et c'est à la justice de décider combien de temps ils doivent passer en prison. Mais ça, ça ne peut se faire qu'à condition de ce qu'on appelle la procédure, c'est-à-dire depuis l'interpellation jusqu'à la condamnation, cette procédure soit bien faite. C'est une zone où les choses ne se passent pas comme ailleurs dans le monde, où le tribunal le plus proche se trouve à 10 km de là. Là, on parle de milliers de kilomètres. Donc il faut arriver à faire les choses correctement, en prenant en compte bien sûr cette dimension espace-temps, mais aussi en s'assurant que le travail procédural soit bien fait et que la justice soit crédible au moment où elle va condamner les gens pour des faits.
La lutte contre les djihadistes au Cameroun maintenant. Le Comité des Nations Unies contre la torture exhorte l'État camerounais à mettre fin à ce qui est qualifié d'exaction de ses forces de sécurité dans la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. Appel lancé dans un rapport obtenu par l'AFP ce jeudi, qui s'inquiète aussi des arrestations menées dans les régions anglophones du pays. Le comité fait état notamment des formations reçues entre 2013 et 2017 selon lesquelles de nombreuses personnes originaires de l'extrême nord du Cameroun soupçonnées de soutenir Boko Haram auraient été détenues au secret par l'armée régulière et par des membres du BIR, la brigade d'intervention rapide, dans au moins 20 centres de détention non officiels. Le comité contre la torture s'est réuni les 7 et 8 novembre à Genève où il a procédé à un examen du 5e rapport périodique du Cameroun sur l'application des dispositions de la Convention contre la torture couvrant la période 2010-2015. Le Cameroun fait partie des 162 États signataires de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson s'est rendu mercredi sur la base militaire américaine de Ramstein en Allemagne pour préparer un voyage en Afrique début 2018. Il a démenti les rumeurs persistantes sur son éventuelle démission, John Lydon.
Le voyage aura lieu durant le premier trimestre 2018, a indiqué le département d'État sans préciser les pays où il va se rendre. Le chef de la diplomatie américaine a fait un arrêt hier à la base de Ramstein dans l'ouest de l'Allemagne pour s'entretenir avec des officiers sur ce voyage en Afrique. Ces dernières années, l'activité militaire américaine s'est accrue sur le continent avec des missions d'entraînement de troupes locales et des combats contre les islamistes. En octobre dernier, des djihadistes présumés ont tué 4 soldats américains et 5 soldats nigériens dans une embuscade près de Tongo Tongo, une petite bourgade du Niger. Avant Ramstein, Rex Tillerson avait fait une halte à Vienne et à Bruxelles où il a démenti les rumeurs sur sa démission. Visiblement excédé, il a retorqué aux journalistes que c'est une histoire qui n'arrête pas de revenir toutes les 6 semaines et qu'il faut qu'ils aillent obtenir de nouvelles sources parce que cette histoire, a conclu le diplomate américain, est toujours fausse.
Dossier Jérusalem pour terminer. La décision du président américain Donald Trump mercredi de reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël suscite de nombreuses réactions négatives dans le monde, notamment dans le monde musulman. Mais Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué la décision comme un jour historique. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.